On va partager quelques versets dans la Bible et on va faire plusieurs lectures. La première dans le livre du prophète Ésaïe. C'est l'Ancien Testament, première partie de la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er et à partir du verset 1er. Nous lisons, selon ce que disent certains, dans le 5e évangile, le livre d'Ésaïe, qui a été considéré comme annonciateur du Messie, révélateur de la miséricorde de Dieu. Ésaïe, chapitre 1er et verset 1er, on va brosser un tableau et donc on va faire plusieurs lectures pour cela et vous me suivrez, s'il vous plaît, dans ces différentes lectures. Mais maintenant, un constat, Ésaïe, chapitre 1er, verset 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Amen. Et dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 10 à 12. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bon, c'est pas terrible, hein? Et dans le chapitre 1er, je vous cite cela, il est dit au verset 16, c'est l'apôtre Paul qui est malgré tout heureux. Il dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Savez-vous quelle est la différence entre l'optimiste et l'idéaliste? Eh bien, l'optimiste, il espère. Et l'idéaliste, il rêve. Il rêve. De la même manière que vous devez savoir quelle est la différence entre l'ambitieux et le prétentieux. Ouais. L'ambitieux, il fait tout pour atteindre sa cible. Le prétentieux, il fait rien parce qu'il croit qu'il l'a déjà atteinte. Ah, il fait rien. Non, non, mais moi, je l'ai déjà. Finalement, sur cette terre, il y a des ambitieux, des prétentieux, des idéalistes et des optimistes. Il y a aussi des pessimistes, il faut l'avouer. Mais la réalité que dresse Ésaïe du tableau de la situation ambiante n'est pas tellement agréable. Parce qu'on voit bien qu'il dresse un tableau assez sombre de son époque. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'apparemment, la ville et la situation économique à l'époque étaient relativement prospères. Mais Dieu porte un regard totalement différent. C'est fou comme on peut vivre au même endroit, vivre les mêmes événements et pas du tout les voir de la même manière. C'est quand même incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a un événement, on fait souvent appel à témoins parce que tout le monde n'a peut-être pas vu la même chose, tout le monde n'a pas entendu les mêmes choses. Et en croisant les témoignages, on arrive à mieux cerner ce qui s'est passé, l'événement. Mais là, c'est clair. Ésaïe met en avant quelque chose de terrible dans le fond. Il veut dire à ces gens, être riche, est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est un signe de bénédiction, être riche? La preuve que non, puisque Dieu le reproche. Et la preuve que ce n'est pas forcément un signe, parce qu'il y a beaucoup d'endroits sur la terre où les gens ne sont pas riches, ce n'est pas pour autant que Dieu ne les bénit pas. Donc ce n'est pas forcément un signe de bénédiction, de la même manière qu'être prospère, c'est-à-dire réussir de différentes façons, de différentes manières, ce n'est pas forcément signe, et là je m'adresserai aux croyants, à ceux qui se disent croyants, ce n'est pas forcément signe d'une bonne santé spirituelle. Alors Dieu est un petit peu agacé, si vous voulez. Il en a un petit peu marre de leurs mensonges. Ça commence à faire beaucoup. Et toujours dans ce chapitre premier, on ne l'a pas lu, mais c'est écrit un petit peu plus loin, dans le livre d'Ésaïe. Écoutez au verset 13, il dit ceci. « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. » Je ne sais pas si vous aimez l'encens, moi je n'aime pas l'encens. Mais là, on comprend que c'est dans un rituel que l'on apporte l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. En fait, Dieu en a assez. Et Dieu est fatigué de leurs mensonges parce que ce n'est pas en faisant semblant que ça va effacer ce qu'on fait. Ce n'est pas en disant avec nos mots, avec plein de bonnes intentions ou pas mal de trémolos dans la voix que l'on aime Dieu, qu'on est heureux de le connaître et à côté faire pique-pendre. Ce n'est pas en faisant cela que Dieu va être consolé, rassuré, satisfait. Ça ne marche pas comme ça. Je me souviens du témoignage de cette personne qui racontait qu'un jour dans le village est mort un homme du village, il avait tout le temps vécu dans ce village, et il était mort assez âgé. Il avait une particularité, c'est qu'il connaissait très bien les bars du village. Il passait sa vie dans les bars. C'était un, comme on dit vulgairement, un trou, il n'arrêtait pas de boire tout le temps. Donc l'évangile, la foi, c'était très 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 loin de son quotidien. Puis un jour il est mort. Ça arrive à beaucoup ça, hein. Un jour, il est mort. Et quand il s'est retrouvé mort, il a bien fallu l'enterrer. Et comme ça se fait très traditionnellement chez nous, on passe par une cérémonie religieuse. Donc, il est passé par l'église, forcément. Et tout le village était réuni pour ses obsèques. Et on a fait l'éloge funèbre de ce brave homme. Et on n'a rien trouvé de mieux que de dire dans l'éloge funèbre, ce notre frère untel, c'était pas le frère de beaucoup, notre frère untel, ce cher chrétien, ce bon croyant. Mais il n'y en avait qu'un pour croire que c'était vrai, celui qui le disait. Parce que tous ceux qui étaient dans l'auditoire pouffaient de rire en disant « S'il y en a un qui était loin d'être chrétien, c'était bien lui. Hein. Il connaissait plus les bars que l'église. Hein. Il connaissait toutes les marques d'alcool, par contre les évangiles, il ne connaissait pas trop. Hein. » Quelquefois, Dieu voudrait nous dire en face « Arrête, j'en ai marre. Arrête, c'est trop. » Arrête d'être hypocrite, arrête de faire semblant. Et c'est ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe à ces gens-là. Il est en train de leur dire, j'en peux plus, arrêtez, je suis las, fatigué de votre manière d'agir. Ça ne marche pas de cette manière-là, ça ne pourra jamais marcher. Et du temps de Jésus-Christ, les temps n'ont pas changé. À son époque, et l'apôtre Paul rapportera cela dans sa lettre aux Romains, particulièrement la lettre aux Romains, elle est assez incisive contre les Juifs. Cette lettre aux Romains, au chapitre 9, 10, 11, on parle de l'incrédulité de ces religieux, de ces gens croyants et religieux. Et comme on l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure, il n'y suffit pas d'avoir une religion, quand bien même elle nous poursuit depuis un millénaire, ça ne suffit pas pour faire de nous un croyant, certainement pas. Et la preuve en est, du temps de Jésus, les Juifs se targuaient, c'est assez incroyable, d'être supérieurs. Alors il est vrai, il faut le reconnaître, qu'ils avaient tout pour réussir, ils avaient tout pour réussir, Dieu leur avait tout donné pour réussir, mais ils ont échoué lamentablement. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et je voudrais qu'on lise ces deux textes toujours dans la lettre aux Romains, au chapitre 9, justement. Et au verset 3, regardez de quelle manière Paul aime ceux de sa nation, malgré tout. Même s'il leur fait des reproches, il les aime. Il est juif, il est né dans le judaïsme, il a grandi dans le judaïsme, jusqu'à ce qu'il découvre Christ. Et là, évidemment, il est sorti de la religion, il a établi une vraie relation avec Dieu. Mais regardez ce qu'il dit de ses semblables. « Je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ. » Anathème, ça veut dire maudit, jeté en enfer s'il le fallait. « Séparé de Christ pour mes frères. » Si par ma perdition d'autres pouvaient être sauvés, je le ferais. Mais pourquoi il dit cela? Parce qu'il dit pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, et regardez bien, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances et la loi, le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. C'est vrai que Dieu leur avait donné un avantage. C'est vrai que la révélation ne les avait atteints en plein, de plein fouet, la grâce les avait atteints, les avait visités. Mais au chapitre 2, il parlera de cet échouage lamentable. Chapitre 2, verset 17, l'apôtre Paul dit « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Alors on comprend mieux quand Dieu dit par Ésaïe, « Je suis fatigué de vos sacrifices, je suis fatigué de tout ce que vous faites, vos nouvelles lunes, vos fêtes, vos sabbats, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. » La vérité, c'est que tout le peuple vivait mal et était en mauvais état. Du sommet de la tête à la plante des pieds, le constat est terrible. Tout n'est que contusions, plaies vives, qui n'ont pas été adoucies, qui n'ont pas été soignées. Alors, il me semble que nous avons affaire à un parcours surprenant, à savoir, on a tout, on perd tout, et qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste un idéaliste et on se dit de toute façon le ciel est pour moi? Parce que Dieu aime tout le monde. Alors je ne vois pas comment Dieu va envoyer des gens en enfer. Puisque Dieu aime tout le monde, ça m'étonnerait même que l'enfer existe. Sauf que la Bible dit que si on ne veut pas de Dieu, eh bien on assume nos choix. Et si on n'en veut pas, c'est normal, on a le droit, on est libre. Et vous avez le droit de dire oui, de dire non, vous avez le droit d'accepter ou de refuser. Ça, c'est votre liberté. Sauf que forcément, il y a des conséquences. C'est logique. Si vous ne voulez pas de Dieu ici-bas, pourquoi devrait-il vous obliger à le supporter pour l'éternité? Ben non, vous n'en voulez pas maintenant, vous l'aurez pour jamais. Vous l'aurez pas. Pas de problème. Sauf que cet endroit sans Dieu, ben c'est l'enfer. Et l'enfer est une réalité. L'enfer existe. On va revenir sur le parcours d'un homme qui est franchement exceptionnel. Cet homme, il a deux noms. Il est connu souvent sous le nom de Nabucodonosor. C'est un roi perse, il s'appelle Nebuchadnezzar dans nos traductions bibliques. Et je voudrais qu'on aille un petit peu à la découverte de cet homme dans le livre de Daniel. Et vous allez comprendre que si on peut changer de vie aujourd'hui, si vous pouvez changer de vie aujourd'hui, si votre vie peut littéralement être transformée, ce sera juste un effet de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que vous le méritez. Ce n'est pas parce que vous êtes doué, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, ce n'est pas parce que vous avez fait énormément de sacrifices pour Dieu jusqu'à maintenant, rien à voir avec cela. Si vous êtes béni cet après-midi, ce sera juste un effet de la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu veut étendre sa grâce sur votre vie et il veut vous faire du bien. Daniel nous explique un petit peu quel a été le parcours de cet homme Nebuchadnezzar. Ça commence au chapitre 1er. Et on a Nebuchadnezzar, l'ambitieux. Ça, c'est bien. Après, il deviendra Nebuchadnezzar, le prétentieux. Ça, c'est moins bien. Et ce qui devait arriver, arrivera. C'est que Nebuchadnezzar sera le déchu, le ruiné, celui qui perdra tout, l'humilié. Et puis, on terminera avec un Nebuchadnezzar qui sera le gracié, parce que Dieu va lui rendre ce que finalement lui-même a perdu. Quelquefois, on n'a pas fait exprès de perdre notre vie, de perdre notre temps, de perdre notre santé, de perdre. Mais comme nous l'avons entendu également dans le témoignage tout à l'heure, quelquefois, on a fait des mauvais choix et on a récolté ce qu'on avait semé et on préférait ne jamais avoir vécu cela, mais bon, c'est fait. Nebuchadnezzar, il a un parcours surprenant parce que dans le fond, c'est Dieu qui va l'installer là où il se trouve. Au chapitre 1er, c'est un petit peu sa carte de visite, il est dit, verset 1er, « La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. » Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui lui offre ses victoires. C'est quand même pas banal, parce que c'est pas un croyant, loin s'en faut. Et Dieu va même lui donner la victoire sur son propre peuple, sur le propre peuple de Dieu. Ce qui peut paraître étonnant, mais c'est Dieu qui a livré son peuple, Israël, entre les mains de Nebuchadnezzar. Pourquoi donc ? Eh bien, pour donner à Israël une bonne leçon. Ça suffit pas de savoir que Dieu est vivant, ça suffit pas de savoir que l'on est issu du plan de Dieu, ça suffit pas de savoir que Dieu est notre Père qui est dans les cieux, faut le comprendre. Et finalement, ce qui a ruiné le peuple d'Israël du temps d'Ésaïe, c'est qu'ils savaient, mais manifestement n'avaient pas bien compris, sinon ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien des personnes se fourvoient quand on parle de foi, de croyance et de religion, c'est parce qu'ils savent ou ils pensent savoir. Mais en ce qui concerne de comprendre, de réaliser ce que ça signifie, alors ils en sont très loin. Et là, Nebuchadnezzar, il s'installe sur le trône, Dieu lui offre la victoire, Dieu va même lui expliquer pourquoi il lui donne la victoire. C'est écrit au chapitre 2, il va lui expliquer que c'est volontairement qu'il va lui accorder ceci, et il va lui expliquer cela au travers de rêves et de songes. Alors, il n'était pas tellement idéaliste, mais il va devenir profondément prétentieux parce qu'il ne comprend pas que si la victoire est aussi facile, il faut quand même un coup de main, il faut quand même être aidé. Et au chapitre 2 et au verset 31, l'explication est celle-ci. « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense. » Et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et la statue et la mit en pièces. Verset 37. Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. Et dans l'explication, Daniel dira : la tête d'or, c'est toi. En fait, il comprend que Dieu l'a élevé au-dessus de tous les autres hommes. Mais si demain ça devait vous arriver, j'espère que vous garderez la tête froide. Hein. Même si elle est toute en or, gardez-la froide. Hein. Gardez-la froide. Hein. J'espère que vous réussirez à enfiler vos chaussettes. Hein. Mettre les chaussures. Hein. Que vos chevilles ne vont pas trop enfler. Hein. Attends, vous rendez compte ? Vous êtes au-dessus de tout le monde. Mais il y a de quoi être fier quand même, hein. Bref, je suis le plus intelligent, je suis le plus fort, je suis le meilleur. On ne vit pas dans une société un peu comme ça, dites-moi. Ouais, on vit dans une société comme ça. Et nos pauvres enfants sont inculqués dans cet esprit-là. C'est le meilleur qui réussit. Ah, il faut te battre. Il faut que tu sois le meilleur. Si tu écrases les autres, ce n'est pas grave si tu es au-dessus. Par contre, si on t'écrase, défends-toi. Mais ouais, il faut être le meilleur. Et lui, il est le meilleur. Mais comment voulez-vous qu'il ne devienne pas fou? Il est le meilleur. Comment voulez-vous qu'il garde raison? Il est le meilleur. Il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est quelquefois un leurre. C'est quelquefois un piège. Pourquoi de tels privilèges? Pourquoi certains auraient tout et d'autres n'auraient rien? Pourquoi tant de faveurs? Dans le livre des Proverbes, il nous est dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline comme il veut. Un autre passage, pour mieux le comprendre, dira que c'est Dieu qui installe les rois, c'est Dieu qui installe les juges, c'est Dieu qui installe les princes. Et il leur donne le pouvoir de commander, le pouvoir de diriger, le pouvoir de faire la justice. Mais soit dit en passant, il faut quand même rendre des comptes après cela. C'est pas tout d'être promu, vous imaginez, vous êtes un ouvrier dans une grande usine et vous arrivez un matin et on vient vous dire, écoutez, on a changé d'avis, on vous nomme PDG de la boîte. Ça va vous faire drôle, hein? Là, vous voyez les zéros s'ajouter au salaire. Tout d'un coup, ça change. Mais à peine vous serez assis dans le fauteuil, vous allez voir des piles de dossiers, vous allez comprendre votre malheur. Parce que maintenant, il faut tout gérer. Et si vous gérez mal, c'est de votre faute. Bon, ça n'arrivera jamais, vous le savez. Mais dans l'absolu, il suffit de monter un petit peu, d'avoir un petit peu plus de facilité, de capacité, pour imaginer que c'est naturel, que c'est normal, que c'est indu, que et si c'était une faveur. Et si Dieu avait décidé de vous bénir simplement parce qu'il vous aimait. Moi, je ne crois pas que la vie de tous les hommes soit destinée au bonheur ou au malheur. Je crois que Dieu veut bénir les hommes. Je crois que Dieu veut les bénir, quels qu'ils soient. Le diable fera tout pour que ses projets n'aboutissent pas. Le diable fera tout pour détruire les projets de Dieu à votre égard, évidemment. Mais la vérité, c'est que Dieu fera tout pour croiser votre route, frapper à la porte de votre cœur et vous dire qu'il vous aime, qu'il veut vous bénir, qu'il veut vous faire du bien. Si cet après-midi vous êtes là, ce n'est pas un hasard, Même si vous avez décidé de venir, même si c'est vous qui avez dit « je vais à l'église », n'empêche que ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu vous aime, parce qu'il veut vous bénir, il veut vous alerter sur la mauvaise route que vous avez empruntée. Un peu plus loin, au chapitre 3, comme ça marche bien pour Nebuchadnezzar, ben on s'habitue à la facilité quand ça va bien. Non, moi j'aime bien la facilité. Vous aimez pas, vous? Moi j'aime bien, tous les matins, je mets en route la voiture, elle démarre. C'est mieux que si on entend et là vous dites, il va falloir que j'y aille à pied, oh là là, il n'y a pas de bus. Je peux même pas y aller en train, il y a encore une grève. Il est où, Daniel? Encore une grève des trains, c'est pas possible. Et tout à coup, on se dit, ça va être galère, ça va être la panique, comment on va faire, comment on va s'en sortir? C'est tellement pratique quand tout va bien. Tellement pratique quand ça marche bien. On s'habitue facilement. Ben Nebuchadnezzar, il s'est bien habitué. Il s'est bien habitué au luxe. Il s'est bien habitué à l'argent. Il s'est bien habitué à manquer de rien. Il s'est bien habitué à claquer des doigts. Et tout arrive comme ça. On s'habitue bien. Et d'ambitieux qu'il pouvait être, il devient prétentieux. Chapitre 3 vous montre en quel état se trouve cet homme, Nebuchadnezzar. Il va faire construire une immense statue. D'ailleurs, dans tous les pays où il y a des dictateurs, il y a des grandes statues d'eux. Vous avez vu? Souvent, dans des pays plutôt démocratiques, on a fait des statues aux héros qui étaient morts. En général, c'est une fois qu'ils sont morts qu'on dit qu'ils étaient bien et qu'on leur fait des statues. Mais dans ces pays pas trop démocratiques, non, la statue, elle est du temps du vivant. Du vivant, forcément. Alors, elles sont grandes, elles sont belles, magnifiques. Vous allez de la Corée du Nord, vous passez par la Chine, vous allez dans plusieurs pays arabes. De grandes statues comme ça, ou de grands panneaux, choses assez incroyables. D'ailleurs, on me racontait, on me montrait la semaine dernière, quand on se baladait dans Tunis, une façade d'un immense immeuble. Immense immeuble qui devait faire peut-être une dizaine d'étages. Et sur un côté, il y avait en fait une face de mur, un petit creux comme ça et une autre face de mur. Et dans le creux, c'est l'architecte qui avait prévu ça, il y avait des fenêtres. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelques années de cela, du temps d'un ancien chef d'État, il avait décidé de mettre sur cette façade un immense portrait de lui. Donc tous ceux qui avaient des fenêtres, du jour au lendemain, terminaient. Ils ne voyaient plus le jour. Et puis malheur à qui allait arracher le... Vous imaginez la façade sur 10 étages, un immense poster comme ça. Quand la Révolution est passée par là, on a arraché le poster et les gens ont réutilisé leurs fenêtres. Ils étaient contents. Et puis quand ça s'est mal passé au bout de 3-4 ans d'un pouvoir transitoire, certains ont eu une idée de génie. Une idée de génie. Vous savez ce qu'ils ont fait ? En une nuit, ils ont rebouché toutes les fenêtres, ils ont remis une image. Les gars se sont levés le matin, ils ne voyaient plus rien. Dans la rue, ils ont revu l'image de l'ancien. Ça leur a fait un choc. Et on était à quelques jours des élections. Et ils ont dit, si vous ne voulez pas qu'il revienne, votez bien. C'était malin, hein ? C'était malin. Et le lendemain, ils ont enlevé l'affiche et puis ça a marché pour les élections. Le fait est que Nebuchadnezzar, lui, il s'est fait une immense statue à sa personne. Et il va ordonner qu'à un certain moment, on allait jouer de la musique, du chalumeau, de la trompette, de la guitare, du psaltérion, de la sambuc, de la cornemuse même, toutes sortes d'instruments de musique. Et quand on entendait ces instruments de musique, il fallait se prosterner devant la statue. Plus mégalo que ça, tu meurs. Voilà, mégalomane. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a construit la statue. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui n'avaient pas trop envie de se prosterner devant la statue. On en nomme trois. Shadrach, Meshach, Abednego. On avait changé leur nom. C'était Michaël, Azaria. Et le troisième va me revenir. Bref, ces trois-là, on avait changé leur nom et on leur avait dit, maintenant vous allez être éduqués comme chez nous, sauf qu'ils avaient une autre religion, c'était des juifs. Et eux, se prosterner devant une statue, jamais de la vie. Hein. On se prosterne devant Dieu, c'est tout. Mais le roi était fou furieux. Et il y a cette fameuse scène dont on connaît l'histoire, où on a pris ces trois hommes et on les a jetés dans une fournaise ardente. On les a jetés dans un four crématoire. On les a jetés dans un four en feu. Pour qu'ils brûlent instantanément. Et non seulement ils n'ont pas brûlé, mais il nous est dit qu'il y en a même un quatrième qui est venu leur rendre visite dans le feu. Et quand Nebuchadnezzar a ouvert une trappe, d'ailleurs, quand il a ouvert la trappe et qu'il a vu que ces gens marchaient au milieu du feu, il a été saisi d'une grande peur. Et on les a fait sortir en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le fait est que, eh bien, c'était tout simple, Dieu les avait délivrés. Avant de les jeter dans le feu, Nebuchadnezzar dira « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Qu'est-ce qui lui a pris à Nebuchadnezzar ? Il avait tout. Il avait tout. Il avait le pouvoir, il avait les richesses, il avait la faveur de Dieu, puisque c'est Dieu qui l'avait installé là. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi ? Mais pourquoi l'orgueil s'est emparé de lui à ce point-là ? Vous savez, l'orgueil est jamais très loin de chacun de nous. Hein. Jamais très loin de chacun de nous. D'ailleurs, comme disait quelqu'un, le jour où vous pensez ne plus être orgueilleux, c'est là que vous l'êtes vraiment. Le jour où vous pensez que ça y est, vous vous êtes libéré de ça, c'est là qu'il vous habille de pied en cap, certainement. Verset 13 du chapitre 3 et verset 15. Nebuchadnezzar, irrité, furieux, a voulu imposer sa statue d'or, il a voulu imposer son règne, il a voulu se mettre au-dessus de tout le monde, l'orgueil. S'est emparé de lui parce qu'il est le plus fort, parce qu'il est le roi, parce que sa parole est vie et mort. Il fait vivre, il fait mourir comme il veut. Et parce que dans le fond, il croit que tout lui est acquis. Et là, il va perdre son sens des réalités. Une seule chose compte, sa propre gloire. Quand on pense qu'à soi, quand on se dit qu'on est le meilleur ou pas loin de l'être, quand on pense qu'on a besoin de personne, c'est là que tout nous abandonne. Et c'est là que le terrain glisse sous nos pieds. Et c'est là qu'on finit par perdre et on peut même perdre la vie. Cet homme va vivre une expérience incroyable parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Hein. Vous le saviez cela ? On ne se moque pas de Dieu. Il va vivre une drôle d'expérience. Dieu va l'avertir du danger de se croire invincible. Et Dieu le fait de toutes les manières. Il vous le dira, vous aussi. Dieu va l'avertir qu'un danger imminent le guette. Dieu va l'avertir et Dieu va lui expliquer la marche à suivre. Un seul moyen d'éviter la chute, repens-toi. La repentance, humilie-toi devant Dieu. Mais la repentance, c'est un acte volontaire. La repentance, c'est même un choix de vie. C'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu. C'est reconnaître que sans lui, j'y arriverai pas. C'est reconnaître que j'ai besoin qu'il m'aide. J'ai besoin qu'il prenne soin de ma vie. M'humilier, me repentir devant Dieu. Mais c'est terrible à faire. C'est un choix de vie. Est-ce que je veux m'en sortir? Ou est-ce que je vais me condamner moi-même? Nebuchadnezzar va se condamner lui-même. Au chapitre 4, il nous est dit ceci, à partir du verset 28, « Alors que Dieu l'a averti, un grand danger te guette, fais attention. » La Bible dit ceci, chapitre 4, verset 28, verset 29, « Au bout d'un an, plus tard, Dieu l'a averti et il a usé de patience pendant un an. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, jardin suspendu de Babylone, septième merveille du monde. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Dites-moi, on ne se croirait pas dans un de ces pays où on est élu à 99,9%? Non ? « Résidence royale que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. C'est fou, hein ? Dieu l'a averti, Dieu lui a dit « Fais attention, fais attention !» Et il va se jeter dans la gueule du loup. Combien de fois Dieu vous avertira ? En disant « Le péché, ça te tue. Le péché, ça t'amène à la mort. Le péché, ça va te détruire. Autant que la superstition, la religiosité, l'hypocrisie, ça va te détruire. Tu ne vas pas changer, tu ne vas pas arrêter, tu ne vas pas penser autrement. » Et lui, il continue. C'est jeté dans la gueule du loup. Mais il va être brisé pour de bon. Il va être ruiné pour de bon. Il va être humilié, anéanti littéralement. Certains commentateurs ont essayé de comprendre ce qui lui est arrivé. Une forme de maladie où un être humain se prend pour un animal. Ça arrive, ça porte un nom. Et il a quitté le palais, il était incapable de parler, de communiquer, il s'est mis à émettre des sons comme des animaux. Et bref, on a compris qu'il était fou. Il s'est dit, il est complètement fou. Alors on l'a mis à part et puis au bout d'un moment, on a compris que c'était terminé, qu'on ne tirerait plus rien de lui. Donc on l'a chassé du palais. C'est son palais, c'est son empire, c'est son royaume. Mais t'as beau être le plus grand, le plus fort, on te chassera quand tu serviras plus à rien. Et on l'a chassé. Il a vécu dans la rue, il a vécu dans les champs plutôt. Il a vécu, il a mangé de l'herbe comme les animaux. Ses ongles ont poussé. Il y en a qui font des concours. Hein. Pendant des années, ils se coupent pas les ongles. C'est affreux, quoi. Les cheveux, la barbe, vous imaginez dans quel état il était ? Ses cheveux ont poussé comme les plumes des aigles. Bon, donc on imagine un petit peu la scène, pauvre homme. Il a perdu la tête. Et si on devait le croiser, on devait dire, ouais, c'est le fou. Mais comment il s'appelle Nebuchadnezzar ? Tu rigoles ? Nebuchadnezzar, le roi, ouais, c'était lui. Mais regarde comment il est maintenant. Comme on est, comment on peut devenir ? Certains pensent qu'ils resteront toujours beaux, intelligents, riches. Non, ça partira ça aussi. Certains pensent que, ben voilà, ils seront toujours intelligents, forts, solides. Non, ça peut partir d'un jour à l'autre, ça peut partir. Finalement, il a tout perdu. Puis Dieu lui a fait grâce et je conclue avec cela. Et je voudrais vous dire que Dieu peut vous faire grâce encore aujourd'hui. Parce que s'il a fait grâce à cet homme, il y avait encore de l'espoir pour lui, il y a encore de l'espoir pour vous, forcément. S'il y a eu une solution pour lui, ça veut dire qu'il y a encore un Dieu pour vous. Il y a encore un Dieu qui vous aime. Il y a encore un Dieu qui peut vous aider. Et il y avait encore un Dieu pour lui. Il y avait encore un Dieu pour l'aimer, pour lui venir en aide, pour le relever. Il y a encore eu un Dieu capable de lui pardonner sa folie. Dieu vous pardonnera votre folie, c'est sûr, si vous lui demandez grâce, si vous lui demandez pardon. Le texte continue au verset 34 et il est dit, après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Ça, c'est important. Je levai les yeux vers le ciel. Qui est au ciel? C'est qui? Ouais, il s'est tourné vers Dieu. Il a levé les yeux vers le ciel. Et instantanément, la raison lui est revenue. Vous vous rendez compte? Tant qu'il regardait par terre, tant qu'il regardait autour de lui, il était fou. Il a suffi qu'il lève les yeux vers le ciel et tout à coup, il est redevenu intelligent. Il a retrouvé ce qu'il était. Il s'est retrouvé, lui, le roi Nebuchadnezzar. Il s'est revu en forme. Je levai les yeux vers le ciel, la raison me revint. J'ai béni le Dieu Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, ça c'est important, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. J'aimerais vous dire que l'Évangile, Paul dira, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile a la puissance et a l'autorité pour vous sauver cet après-midi. L'Évangile a la grâce et l'efficacité suffisante pour transformer votre vie. Tout est possible. Souvenez-vous, entre l'optimiste et l'idéaliste, il y en a un qui espère et l'autre qui rêve. Entre le prétentieux et l'ambitieux, on a vu la différence cet après-midi. Je ne vous demande pas d'être optimiste, c'est trop limité. Surtout pas idéaliste, encore moins prétentieux. Ambitieux à la limite. Mais je vous demande simplement de croire. Soyez simple comme un enfant. Si vous croyez comme des petits-enfants, il semblerait qu'un petit enfant est encore plus crédule qu'un enfant, et qu'un jeune homme et qu'un adulte. Alors si vous voulez croire que Dieu tient votre vie dans sa main et qu'il peut tout changer, ça nécessite de votre part un acte de foi, une prise de position, une décision. Vous comprenez que ça n'a pas changé du jour au lendemain pour Nebuchadnezzar. Non, il a fallu qu'il lève les yeux. Et il faut bien vous humilier devant Dieu pour être béni. Si vous ne vous humiliez pas, vous resterez, comme disait Esaïe, malade. Du sommet de la tête à la plante des pieds, rien sera en bon état. Si vous voulez la grâce, si vous voulez la bénédiction, approchez-vous de lui et sachez qu'à Dieu tout est possible. Les Juifs avaient tout, la loi, les alliances, les promesses, mais ils se flattaient, ils se persuadaient d'être arrivés. Non, non, ils étaient en route, ils n'étaient pas arrivés. Personne d'entre nous n'est encore arrivé. Mais vous êtes en route, alors rejoignez le chemin sur lequel Jésus a tracé la voie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et soyez bénis cet après-midi. Il est là pour vous accorder sa grâce et pour vous dire que la grâce est imméritée. Jésus a sacrifié sa vie pour cela. Jésus est mort, il a donné sa vie, il s'est livré pour vous. Il vous sauve, il vous pardonne et il vous donne une vie nouvelle. Amen. On va prier, on va s'approcher de Dieu. On va réaliser cet après-midi ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli. Et je voudrais simplement que dans un temps de recueillement, dans un temps de prière, là maintenant, vous puissiez réfléchir à ce qui est nécessaire, à ce qui est légitime pour vous, à ce qui est important. Considérez ce qui a le plus de valeur pour vous. Est-ce que c'est votre bien-être? Mais la richesse ne signifie pas être béni. La richesse ne signifie pas la bénédiction. Il y a plein de gens qui sont riches d'or et d'argent, de dollars, mais ils meurent dans la détresse, dans la dépression nerveuse. Certains même s'enlèvent la vie parce que la vie est trop dure. Est-ce que avoir un bon travail, être en bonne santé, voudrait dire que finalement Dieu nous aime comme ça? Pas évident, pas évident. On peut être d'une bonne constitution, on peut avoir été entre guillemets gâté par la nature, comme on le dit, mais ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un d'heureux. Ce qui fera de vous quelqu'un d'heureux, c'est votre relation avec Dieu. C'est ce que vous allez établir comme relation pertinente avec Dieu. Alors je voudrais prier en ce sens. Quel est celui, celle, cet après-midi, qui dira, j'ai besoin de Dieu, il faut qu'il m'aide. Quelle est la personne, cet après-midi, qui va s'humilier devant Dieu, en disant, ô Dieu, viens m'aider. Ô Dieu, souviens-toi de moi. Accorde-moi ta grâce. On va prier et on va croire que Dieu va agir. Je voudrais, pendant que je prie, je voudrais que vous aussi, vous priez du fond de votre cœur. Je voudrais que vous aussi fassiez un acte de foi, une prise de position. Il faut vraiment se décider cet après-midi. Il faut vraiment demander à Dieu de l'aide. Vraiment, vous en avez besoin. C'est nécessaire. Sinon, vous êtes comme Nebuchadnezzar. Chacun a élevé sa propre statue et chacun aime bien se prosterner devant son image en disant « Voilà, je suis quelqu'un d'abouti, de bien. J'ai réussi. » Non, non. Si vous n'allez pas au ciel, vous avez tout perdu. Si vous n'allez pas au ciel, vous n'avez pas gagné la partie, vous l'avez perdue. Cet après-midi, Dieu vous aime. Il veut toucher votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi et nous te demandons ta grâce. Je te demande de bénir ceux qui sont avec nous cet après-midi et ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui vivent loin de toi, ceux qui sont finalement tracassés, en peine, dans les soucis, ceux qui n'ont pas compris ce que tu voulais faire dans leur vie. Je prie que tu les bénisses. Il ne suffit pas de savoir ces choses-là, faut-il les comprendre encore ? Je prie que quelqu'un réalise que sans toi, il est perdu. Sans toi, il n'y a pas d'avenir. Sans toi, il n'y a pas de grâce. Sans toi, il n'y aura pas de lendemain. Mais par ta grâce, tout est possible. Étends ta main, je t'en prie. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, s'il te plaît, et bénis ses amis. Que ta présence les accompagne maintenant. Que ta présence soit là près d'eux. Fais-leur du bien, je t'en prie. Glorifie-toi là maintenant, au nom de Jésus. Amen.